par ton sang précieux. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta parole par ton Esprit Saint et que tout soit fait pour ta gloire. Que le cœur soit changé, converti, transformé. Que le cœur vienne à la transparence vis-à-vis de toi et que tu nous laves et que tu nous transformes par ton Esprit Saint. Merci, Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voilà l'encouragement du frère Paul. Il nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La grâce, ça veut dire la gratuité, la bonté gratuite. Et Dieu est dans le trône, assis sur le trône de la grâce. Il veut sauver, la grâce veut sauver, la grâce veut guérir et libérer. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est qui un souverain sacrificateur? Autrefois, Dieu avait demandé à son peuple, le peuple d'Israël, de faire la cérémonie suivante pour obtenir le pardon. Il y avait un jour de l'année qu'on appelle le Yom Kippour, c'était un jour réservé au pardon. Et jusqu'aujourd'hui, il continue cette cérémonie-là, même s'il n'y a pas réellement tous les ingrédients qu'il faut pour accomplir cette cérémonie. Autrefois, il y avait le temple. Et dans le temple, il y avait deux compartiments, le lieu saint où allaient les prêtres normaux, les sacrificateurs, et un lieu qu'on appelle le lieu très saint, où aller qu'une seule fois par an, celui qu'on appelle le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Il allait une fois par an seulement. C'était le seul jour où il pouvait entrer dans ce lieu très saint afin de réclamer son pardon et le pardon du peuple en entrant avec le sang d'un animal qui aurait été sacrifié à cet effet-là. Et il a entré là-bas une seule fois par an, puisque ce lieu très saint symbolisait la présence de Dieu. Donc il allait réclamer la grâce de Dieu en y entrant. Et ce privilège qui lui a été donné une fois par an, aujourd'hui Paul nous dit que c'est un privilège qui nous est donné tous les jours. Nous pouvons entrer dans le trône de la grâce. Parce que vous imaginez, Dieu dans sa justice n'a toléré qu'une seule fois par an et par une seule personne. Mais aujourd'hui, Dieu dans sa grâce, parce que la justice de Dieu est solide et véridique, et c'est pourquoi dans sa justice nous étions tous condamnés, considérés comme des pécheurs, les Juifs, les Grecs, tout le monde. C'est pourquoi il n'autorisait qu'une seule personne à faire cette intrusion dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur. Et il entrait avec le sang du sacrifice. Et Jésus est entré par le même chemin, mais dans le temple céleste, avec son propre sang, pour dire, voilà, je me suis sacrifié pour les humains. Dieu nous a pardonnés. Et Dieu a autorisé désormais à quiconque croit en Jésus d'entrer dans sa présence à cause du sang de Jésus. À cause de Jésus. Donc aujourd'hui, nous pouvons aller parler à Dieu, le cœur repentant, le cœur contrit, le cœur transparent pour lui dire notre problème. Nous lisons Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Voilà ce qui est écrit. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont commencé à se cacher. Notre thème d'aujourd'hui, c'est faire face. Il faut faire face concernant nos problèmes et concernant Dieu. Il faut faire face à tout cela. Il faut faire face à Dieu. Et Adam s'est caché. Ève s'est cachée aussi. Pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils se sentaient nus. Dans la Bible, la nudité est liée au péché. Donc quand on a le péché dans la Bible, on est considéré comme nu. On n'est pas couvert. On n'est pas protégé. Et Adam se cachait de voir Dieu, puisqu'il était dans la culpabilité du péché. Il ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu et il se cachait. Dieu dit, mais où est-ce que tu y es? Mais bon, je me cache parce que je ne me sens pas bien. Il est écrit que par la suite, le Seigneur leur a tué un animal et a mis le sang, leur a demandé de mettre le sang de cet animal sur eux. Cela préfigurait ce que Jésus allait faire pour nous. Par la suite, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire les sacrifices d'animaux à cause du pardon de péché. Parce que Dieu, dans sa justice, est droit. Et par conséquent, lorsque nous péchons, pour lui, nous sommes condamnés à mort. Parce que par la suite, il a dit, avant, il leur avait dit, si vous mangez de cet arbre-là, du fruit de cet arbre, vous mourrez. Et aujourd'hui, tout péché entraîne la mort. Mais Dieu, dans son amour, a voulu que quelqu'un d'autre paye à notre place. Et cet homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il est venu prendre un corps d'homme afin de prendre le péché des hommes sur lui et d'être condamné à leur place, de sorte que quiconque croit en Jésus puisse recevoir la vie éternelle. Je voulais nous rappeler peut-être ou nous informer de quelque chose qui se passe dans l'homme. L'homme a l'habitude de fuir Dieu et de se cacher vis-à-vis de Dieu. Même beaucoup de chrétiens. Souvent, parfois, quand nous prions, Nous disons beaucoup de mots et à la fin, on ne se souvient pas de ce qu'on a dit et on ne se sent pas plus près de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se cache. Nous sommes continuellement perturbés par la nature de péché qui est en nous. Et comme Adam, nous fuyons, même si nous venons dans une salle qu'on appelle l'église, mais au fin fond de nous, nous fuyons Dieu. Nous sommes gênés par lui à cause de la culpabilité du péché, à cause de la nature pécheresse qui est dans la chair. Il y en a parfois qui n'ont même pas péché, mais qui sentent la faiblesse dans leur corps. Et ça les gêne. Et ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Même s'ils vont dire des paroles bibliques, mais ils sont comme loin. Et je pense que chacun de nous se rappelle de cela. Mais il y a un autre cas. Le cas le plus important, c'est le cas des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu par Jésus son Fils. Ils sont en fuite comme Adam. Adam, lorsqu'il a péché, il s'est caché. Et avant, lorsque nous étions des pécheurs, nous étions perturbés par la culpabilité. Nous étions aussi perturbés parce que notre nature ne ressemble pas à celle de Dieu. Vous imaginez, quand, admettons que vous avez des vêtements sales, parce que vous étiez en train de faire du bricolage, et que l'on vous dise subitement que le président veut vous voir, il arrive dans 5 minutes, mais vous êtes perturbé, vous fouillez dans la salle de bain, vous cherchez le beau vêtement, vous repassez. Pourquoi? Parce que vous savez bien que le président, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'honorable. Donc je ne peux pas me présenter devant lui sale. Et c'est ce qui nous arrive inconsciemment, même dans notre subconscient. Nous sommes dérangés par Dieu et nous nous cachons. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle, il veut qu'on fasse face. Il veut qu'on le regarde et qu'on vienne parler, dire notre problème. Pourquoi tu fouilles Dieu? On a lu dans Hébreux 4 que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, a été crucifié afin que toi, tu aies la possibilité de t'approcher de Dieu, de dire à Dieu, c'est vrai, je suis indigne de venir près de toi, mais Jésus s'est sacrifié pour moi afin que moi, je puisse venir te demander pardon pour mes péchés. La culpabilité nous empêche de nous approcher de Dieu. Et beaucoup de chrétiens parfois multiplient des paroles, font beaucoup d'activités, mais ils ne se sentent pas toujours proches de Dieu. Parce qu'en réalité, ils se cachent. Ils viennent faire la religion, mais au fin fond d'eux, ils fuient Dieu. Parce qu'ils sentent qu'il y a le péché en eux. Ils sentent qu'il y a un problème. Arrêtons de fuir. Arrêtons de fuir. Quel que soit notre état, arrêtons de fuir. C'est le jour de venir à Dieu pour lui dire ton problème. Seigneur, j'ai péché contre toi. Voilà. Seigneur, je veux être sauvé. Il faut lui dire ce que tu veux. Seigneur, je suis dépassé par le problème des plaisirs de ce monde. Il faut lui parler face à face. Dieu veut qu'on lui parle. Nous lisons dans Luc 18. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur !» Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà deux personnes qui s'approchent, entre guillemets, d'une certaine présence de Dieu, puisque le temple symbolisait la présence de Dieu aussi. Mais il y a un qui fait face à Dieu avec son péché. Il dit, « Dieu, je ne suis pas digne de toi, mais à cause de ta bonté, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. » Il y a un autre qui fuit. Comment il fuit? Il présente toutes les bonnes œuvres qu'il fait. Je jeûne deux fois. Je m'habille comme tu aimes. Je fais ceci. D'ailleurs, je suis mieux que mon voisin qui est là. C'est une fuite. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut se présenter face à Dieu, dire « Je suis un homme correct ». C'est qu'il est en train de fuir son état. Tout celui qui se présente à Dieu doit dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Tous, sans exception. Romains 3, 10 dit qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Et cet homme a commencé à montrer ses exploits, parler de ses exploits. C'est une fuite. Arrêtons de fuir Dieu. L'homme est conscient qu'il est malheureux. Il est conscient, bien-aimé, pourquoi les gens se suicident? Pourquoi les gens prennent l'héroïne, la cocaïne? Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Pourquoi les gens s'énervent quand on leur parle de Dieu? Mais si on leur parle d'une girafe, est-ce qu'ils vont s'énerver? Si on leur parle d'un safari au Kenya, est-ce qu'ils vont s'énerver? Non. Si on leur parle d'un footballeur, est-ce qu'ils vont s'énerver? Non. Mais dès qu'on parle de Dieu, ils s'énervent. Donc il y a un problème. Ils savent qu'ils ont un problème. Et ils préfèrent fuir ce problème de plusieurs manières. Ils sentent la culpabilité en eux. Et ils ne veulent pas affronter. On parle de Dieu, il s'énerve. Ah oui, mais il y a trop d'injustice, il y a trop de guerre. Mais pourquoi tu n'es pas calme? Pourquoi tu t'énerves? En réalité, il veut fuir son problème. Bien-aimés, ne fuyons pas notre problème. Tu as des problèmes. Tu sens le péché en toi. Tu sens le mal. Fais face. Amène tes problèmes à Dieu. Il est écrit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » C'est Jésus qui parle. Et l'homme est tout le temps en fuite. Et au début, il va plus s'enfoncer dans le mal. Vous savez, quand on regardait les films autrefois, je parle de moi, on souhaitait parfois que le voleur s'en sorte, donc quelqu'un, par exemple, l'homme à la bouique. Ils ont fait un braquage, ils ont volé les bijoux quelque part. Il y a comme un espoir au fond que le voleur s'en sorte à la fin. Mais on finit par l'arrêter. Donc le film n'a pas le bon goût qu'on aimerait que ça aille. Pourquoi on voulait un peu que le voleur s'en sorte? Parce que nous-mêmes, on était des voleurs. C'est tout. Donc tu espères que le coup marche. Parce qu'au fond de nous, nous tous, nous sommes voleurs. Donc on espère faire un coup qui réussisse. Et on est embêté parce qu'on sait au fond de nous qu'un jour, on t'attrapera toujours. Si ce n'est les hommes de la terre, Dieu t'attrapera un jour. Alors il y a une idée qui vient là pour te dire, non, non, tu peux toi te ne pas te faire attraper. Il y aura une exception pour ton cas. Et on essaye, on s'enfonce davantage dans le mal. C'est une première manière de fuir Dieu. S'enfoncer davantage dans le mal en disant Dieu n'existe pas. S'enfoncer davantage dans le mal en espérant qu'on trouve une force qui sera plus forte que celle de Dieu. En espérant qu'on trouve un état de Dieu, on s'enfonce davantage dans le mal. C'est pourquoi nous voyons le mal qui grandit. Le mal qui grandit, c'est la fuite. Les gens fuient Dieu et ils sont obligés pour équilibrer de trouver une force qui semblera être supérieure à celle de Dieu. Et ça ne marche pas. Ils vont toujours plus loin et plus loin et plus loin dans le mal. C'est ce que nous étions autrefois. Cherchant une puissance qui remplacerait celle de Dieu. Le footballeur va chercher davantage quelque chose qui va le faire rendre, qui va faire de lui le plus grand champion, mais il va se faire battre un jour. Il va chercher encore. Mais même tous ceux qui s'enfoncent ainsi dans le mal finissent un jour par craquer parce qu'ils ne vont pas réussir. Et un jour, ils vont être limités. Les Jacques Mesrine ont été attrapés un jour. Hitler a été attrapé un jour. Donc l'homme qui fuit Dieu finit par s'enfoncer davantage dans le mal, croyant trouver une force qui serait supérieure à Dieu, et ça finit toujours mal. Et deuxièmement, comment l'homme fuit Dieu? Il va chercher à condamner Dieu, à considérer que si Dieu existait, il ne devrait pas y avoir des guerres, ainsi de suite, des accidents. Mais oui, mais ce n'est pas Dieu qui cause les accidents. Ce n'est pas lui qui cause les guerres. C'est la méchanceté des hommes qui cause les guerres. C'est l'ivresse des humains qui cause les accidents. Ce n'est pas Dieu. Alors lui, il va tout mettre, tout ce qui est négatif, sur le compte de Dieu. Et tout ce qui est positif, il va mettre ça sur le compte du hasard. Vous voyez l'injustice. Donc quand le climat est beau, il va mettre ça sur le compte de Mère Nature. Et quand il y a des problèmes, il va dire c'est Dieu. L'homme qui fuit ses problèmes, qui fuit la réalité, qui fuit Dieu, finit par condamner Dieu. Et maintenant, comme il ne voit pas Dieu, il finira par condamner les hommes qui semblent représenter Dieu. Il va condamner les chrétiens, il va condamner les pasteurs, il va toujours trouver des failles pour condamner Dieu. En passant par les humains qui parlent de Dieu, c'est la fuite. Tu ne veux pas faire face à tes problèmes. Comme cet homme, il n'a pas voulu faire face à ses problèmes, il a commencé à accuser l'autre. Je suis meilleur que l'autre. Je jeûne deux fois par semaine. Il veut fuir. Il ne veut pas faire face à ses problèmes. Et beaucoup condamnent Dieu en disant comment il a permis que 6 millions de juifs meurent. Comment il a permis que 22 millions de personnes meurent pendant la Deuxième Guerre mondiale? Comment il a permis que ma mère meure? Comment il a permis ceci, cela, ainsi de suite, que mon mari fasse ceci, que ma femme fasse cela? Mais ça, tout ça, c'est la fuite. On ne veut pas affronter son problème, dire à Dieu clairement, « Je suis un homme pécheur, viens à mon secours. Je veux changer de vie. Je suis fatigué de vivre par moi-même. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Quelqu'un qui n'est pas fatigué ne peut pas venir à Dieu. Il trouvera toujours des raisons pour condamner Dieu. Il trouvera toujours des moyens pour chercher une force parallèle qui soit supérieure à Dieu. Mais ça ne va toujours pas marcher. Et il est obligé de revenir à Dieu. Mais s'il ne veut pas, il finira mal. À la croix, il y avait deux voleurs. Il y a un qui a été fatigué. Il a dit « Je suis fatigué. » Jésus, il donne tous les signes d'être le Fils de Dieu. Moi, je m'humilie. Je reconnais mon péché. Et cet homme a reconnu son problème. Il a dit, moi, je suis un brigand. Je suis un bandit. Je me suis mal comporté. C'est mon problème. Jésus, tu vois mon problème. Alors, sauve-moi de mon problème. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi l'homme ne veut pas céder? Il veut fuir. C'est l'orgueil qui est en lui. Et il veut condamner Dieu. Mais c'est à cause de Dieu que je suis dans ce problème. C'est à cause. C'est la fuite en réalité. Il ne veut pas affronter son problème. Il ne veut pas parler à Dieu face à face, dire voilà mon problème. Quel autre moyen il utilise pour fuir son problème? C'est trouver les boucs émissaires. Il y en a qui diront, c'est à cause de mon oncle. Il se dit pasteur, mais il se comporte mal. Moi, je ne peux pas prier. Il y en a qui vont dire, mais un tel chrétien m'a escroqué. Alors moi, je ne prie plus. D'autres vont dire, mais j'ai des chrétiens comme employés, mais ils viennent toujours en retard. Ils ne sont pas exemplaires. Moi, je ne prie plus. Chacun va trouver le bouc émissaire. C'est à cause de ma femme que je ne prie plus. C'est à cause de mon mari que je ne prie plus. C'est à cause de mes parents. On trouve des boucs émissaires pour dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de celui-là, c'est la faute parce qu'on ne veut pas affronter son problème. On fuit Dieu. On se sent sale. On se sent mal. On se sent perdu. On se sent coupable. On sent bien que Dieu est d'une autre nature. On sait que notre nature est différente de sa nature. Alors on fuit parce qu'on ne sait pas comment on va communiquer avec une telle personne si propre, si pure, si amour. Mais cette personne nous dit aujourd'hui, son fils Jésus est mort à la croix afin que nous puissions avoir le salut. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous allons lire ce passage, il est capital, Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Il faut arrêter de fuir. Affronte ton problème. La fuite ne changera pas ton problème. Pendant que tu fuis, tu as ton problème en toi. C'est comme si quelqu'un croit qu'en fuyant, il va changer d'estomac, non? Même si tu fuis, tu fais 100 km, ton estomac est toujours en toi. La fuite ne va pas éliminer ton problème. Il faut faire face à ton problème. Quand David est arrivé, il a vu que Goliath était en train de terroriser toute l'armée d'Israël. David a dit, je vais affronter ce problème et liquider ça une fois pour toutes. Il nous est écrit que David a couru vers Goliath. Mais beaucoup de gens étaient en train de réfléchir comment éviter Goliath. David, lui, il a compris qu'il fallait attaquer Goliath. Il a compris qu'il ne fallait pas fuir, il fallait faire face avec la puissance de Dieu. Il a dit, c'est l'Éternel qui doit te combattre, Goliath. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu vas voir qui est Dieu aujourd'hui. Voilà. On va vers Dieu, on fait face à Dieu, on fait face à notre problème, on met Dieu à la rencontre de notre problème. Et nous sommes vainqueurs. Hébreux 4, 16. Est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous du trône de la grâce. Un enfant que tu as te perturbe, approche-toi du trône de la grâce. Dis à ton Père qui est dans les cieux, mon enfant me perturbe, je te le confie. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais tu fuis parce que tu ne veux pas avouer que tu as un enfant qui te perturbe. Tu fuis parce que tu veux, aux yeux des humains, montrer que tu as des bons enfants. Et tu ne veux pas affronter Dieu, dire clairement le problème. Parce que ça serait avouer une faiblesse dans ta vie. Dis ton problème, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Explique à Dieu ton souci. La fuite finira toujours mal. Il faut faire face à ces problèmes et il faut faire face à Dieu. C'est cela la solution. David a fait face à Goliath. Comment les gens fuient après le système de boucs émissaires? Ils fuient par la religion. Vous allez voir des gens régulièrement venir prier, régulièrement venir chanter, régulièrement faire des choses parce qu'ils ne veulent pas affronter Dieu. Il croit qu'en faisant beaucoup de choses pour Dieu, Dieu oubliera leurs problèmes. Il croit annuler leurs problèmes en faisant beaucoup de choses pour Dieu. C'est de la religion. On a vu cet homme-là qui disait « Je jeûne deux fois par semaine » dans Luc 18. Mais Jésus dit « Il n'a pas été justifié. » Malgré tout ce qu'il faisait pour Dieu, il n'a pas été justifié. Pourtant, l'autre disait « Seigneur, je suis un homme pécheur, c'est ça mon problème. Aie pitié de moi. » Jésus dit que le deuxième était justifié. Et beaucoup fuient leurs problèmes. Ils savent, ils connaissent leurs problèmes. Ils sont dérangés par leurs problèmes. Alors ils croient qu'en prêchant, en chantant, en priant, en allant régulièrement à l'église, en étant fidèles aux humains, à une église humaine, que leur problème est effacé. Dieu veut qu'on avoue notre problème, qu'on dise « Seigneur, voici mon souci, voici mon problème. Fais quelque chose à cause de ton fils Jésus mort à la croix pour moi. » Il faut faire face, bien-aimé. La religion et les boucs émissaires, ce n'est pas la solution. Dire que c'est à cause d'un tel, on est en train de me freiner par un tel, on est en train... Non, bien-aimé. Il est écrit dans Romains 8, 28, « Pour les chrétiens, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Si tu aimes Dieu, l'environnement concourt à ton bien. Il ne peut pas te freiner l'environnement. Il est fait pour concourir à ton bien. Ou alors, comme je disais à une sœur, nous prenons les prédications comme des cours. Vous savez, quand on suit les cours, on écoute, on comprend. Mais le jour des examens, il faut que ça ressorte. Et le jour des examens, rien ne sort. Mais pourtant, j'avais compris, mais oui, il fallait travailler. Il fallait se préparer aux examens. Il n'y a pas que les cours à l'université ou à l'école. Il y a aussi les interrogations, il y a aussi les examens, il y a les épreuves. Donc Dieu nous prévient. L'enseignement que tu reçois, sache que tu seras éprouvé par rapport à ça pour voir si cet enseignement est entré. Et le jour de l'épreuve, nous oublions complètement cet avertissement. Nous commençons à dire, mais comment Dieu me laisse? Non, il ne te laisse pas, mais comment on va savoir que tu connais? C'est à travers les épreuves. Et on commence à chercher des boucs émissaires. Et on commence à faire de la religion. Et certains, parfois, ils veulent forcer la main de Dieu par des jeûnes personnels. Ils veulent forcer la main de Dieu. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dire leurs problèmes clairement. Ils évitent, ils prennent un autre langage. Vous savez, Nicodème, dans Jean 3, il est venu voir Jésus. Mais il a commencé par dire, « Seigneur, tu viens vraiment de Dieu, hein? Parce que si tu ne venais pas de Dieu, comment tu peux faire de tels miracles ?» Jésus avait compris son problème. Au lieu de dire clairement son problème, il commence à vanter Jésus. « Tu es un grand docteur venu de Dieu. » Jésus dit, « Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux aller au ciel. » Il faut naître de nouveau pour aller au ciel. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes, ont des fardeaux. Mais ils ne disent pas. Ils sont là à dire, bon, c'est un grand pasteur. Hein? Il parle bien, mais non. Dis ton problème à Dieu. Voilà. Dis ton problème à Dieu. La religion ne sauve personne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Ils ont l'impression qu'ils parlent à un mur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas dit leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de cacher leurs problèmes à Dieu. Et ils ont l'impression de parler à un mur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la religion. Ils croient qu'en parlant beaucoup, c'est ça qui compte pour Dieu. Ils croient qu'en faisant des choses pour Dieu, c'est ça qui compte. Dieu veut un cœur contrit qui lui parle. Nous allons lire ça dans le psaume 51. Psaume 51. Psaume 51, à partir du verset 3. Oh Dieu, c'est David hein, qui est en train de pleurer après avoir été dévoilé par Nathan parce qu'il a commis un grand péché, il a pris la femme de quelqu'un d'autre et il a tué la personne. Et il vient maintenant parler à Dieu. Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà ce que David dit clairement à Dieu. Bien-aimé, il y a parmi nous des gens qui sentent bien qu'ils ont un problème de conversion. Ils vont venir tout le temps parler au pasteur, parler à quelqu'un. Mais je ne comprends pas pourquoi je pêche toujours. Je ne comprends pas. Mais il sait bien, parce que je ne veux pas dire que quelqu'un de converti ne va pas pécher. Ça peut arriver. Mais je veux dire, certains savent bien qu'ils n'ont pas encore tout donné au Seigneur. Mais ils vont venir déranger les autres enfants de Dieu pour dire, bon, je ne comprends pas, on dirait Dieu ne me soutient pas. En réalité, ils savent bien qu'ils n'ont pas encore tout donné. Dis ton vrai problème. Dieu connaît ton vrai problème. Toi aussi, tu le connais. Avoue que tu as un problème de conversion. Il n'y a pas de honte à voir. C'est une question d'éternité. C'est une question de gloire et de présence divine. Quand Dieu est avec toi, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu es la femme la plus heureuse du monde. Ne te bloque pas vis-à-vis de lui. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Avoue ton problème. Dis à Dieu, je ne comprends pas, je suis attaché trop au matériel. Dis la vérité. Beaucoup disent, mais je n'arrive pas à prier. Mais tu n'arrives pas à prier, pourquoi? Je ne comprends pas. Non, en réalité, il comprend, mais il ne peut pas dire. Dis ton problème. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi rester avec un microbe? Tu vas voir le médecin. Tu donnes. Tu cites les souffrances que tu es en train de vivre et il te pose la question. Est-ce que vous auriez bu de l'eau non potable? Mais tu as bu de l'eau non potable. Ah non, non, j'ai pas. Mais bien-aimé, comment le médecin va t'aider? Il faut dire son problème. Dieu est un Dieu bon. Il veut sauver. C'est le trône de la grâce. La grâce, c'est pour sauver. Il ne faut pas faire semblant par la religion. La religion ne sauve personne. Il faut dire son problème. C'est en avouant son problème que les choses vont changer, bien-aimés. Les prières sont bloquées. Pourquoi les prières sont bloquées? Parce que tu ne dis pas le vrai problème, bien-aimé. Il faut dire le vrai problème. N'ayons pas honte de Dieu. Il ne veut que nous sauver, il ne veut que nous faire du bien. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Ne tombons pas dans le piège des œuvres. Repentons-nous et convertissons-nous, bien-aimé. David, quand on est venu lui dire, parce que Nathan ne lui a pas dit directement qu'il a son péché. Nathan lui a dit son péché indirectement. Nathan lui a dit, ben, je vais te raconter une histoire. Et David a dit, ben, raconte. Il faut savoir que David, c'était le roi. Hein, et Nathan, un prophète. D'autres rois ont tué d'autres prophètes. Hein. Certains rois ont tué d'autres prophètes à cause de la vérité. Vous savez, Jean-Baptiste, on a coupé sa tête, hein. Parce qu'il avait dit la vérité au roi, vérité selon laquelle ce roi avait pris la femme de son frère. Et il a eu sa tête coupée. Et Nathan, dans l'esprit de vérité, il vient voir David. Il dit, je vais te raconter une histoire. Un homme avait plusieurs moutons. Beaucoup, riches. Et il avait comme voisin un pauvre qui n'avait qu'un seul mouton. Et il a reçu un visiteur. Le riche reçoit un visiteur. Et quand il reçoit le visiteur, il va prendre le seul mouton du pauvre et il le tue pour nourrir le visiteur. Que penses-tu de cette affaire-là? Bien-aimé, David était un homme intelligent, non seulement intelligent, inspiré. Il savait qu'on parlait de lui. Il a dit, cet homme mérite la mort. Il savait bien que lui-même, il s'agissait de lui. Mais il ne pouvait pas cacher la vérité, faire semblant de ne pas comprendre. Il a dit, cet homme mérite la mort. Eh bien, Nathan lui dit, mais cet homme, c'est toi. Il dit, c'est vrai, c'est moi. Eh bien, dans ce cas, ton enfant va mourir. Bien-aimé. Mais David a accepté la sentence de Dieu parce que c'était la vérité. Et David aujourd'hui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas caché son problème. Il a dit dans Psaume 51, j'ai péché contre toi seul. Je t'ai dit mon problème. Je ne l'ai pas caché. Bien-aimé, nous connaissons les problèmes qui nous environnent. Nous les connaissons bien. Disons-le à Dieu. Arrêtons de fuir. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de prier, bien-aimé. Je comprends. Aussi, il y a notre chair qui ne peut pas supporter la nature de Dieu. C'est vrai. Parce qu'il y a un autre cas aussi. C'est le cas des gens qui se sentent tellement mauvais que ce n'est pas la peine, quoi. Non, c'est faux. Dieu veut sauver. Il est venu sauver le plus vil des pécheurs. Donc, ce n'est pas un argument valable de dire que je suis trop mauvais. Parce que Dieu veut sauver le plus grand des pécheurs. Il peut le faire. Parce que Jésus-Christ est déjà mort à la croix pour cela. Et il y en a, à cause de cela, ils se laissent aller et disent, bon, je suis mauvais, je resterai mauvais, c'est faux. Il y a une possibilité de changer. Mais il faut dire son problème à Dieu et vouloir aussi être sauvé. Parce que si tu ne veux pas être sauvé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais si tu veux être sauvé, dis-le à Dieu. Dis, je suis débordé par mon péché, mais je veux quand même être sauvé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu entendras ce que Dieu te dira. Il te dira, mais moi je peux te sauver. Je peux te sauver. Jésus a montré à Thomas les traces de clous dans ses mains. Il a dit, mais regarde, je suis mort pour vous. Désormais, tout homme peut être sauvé. Mais il faut être honnête. Il ne faut pas fuir Dieu. Il faut dire son problème. Vous savez, souvent quand on est mal à l'aise, c'est qu'on a des problèmes. Souvent, quand on prie, on sent comme un vide, c'est qu'on ne veut pas dire quelque chose. Ou soit qu'on prie dans la religion. Bien-aimé, beaucoup de gens prient par la multiplication des paroles. Jésus a dit, ce n'est pas la multiplication des paroles, mais il faut comprendre ce que tu dis et être sérieux dans ce que tu dis. Donc, quand tu te retrouves devant Dieu en train de prier, il faut considérer que tu parles à Dieu. Il ne faut pas considérer que tu fais le devoir d'un chrétien. Non. Prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas faire un devoir, ce n'est pas faire un rite. C'est parler à Dieu. Et beaucoup sont dans la religion. C'est pourquoi ils prient, mais il n'y a pas comme une sorte d'assurance et de paix après la prière, parce qu'ils n'ont pas parlé à Dieu. Ils ont usé de religion. Ils ont beaucoup parlé, c'est tout. Mais Dieu veut qu'on lui parle, que tu sois conscient quand tu lui demandes. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 11, 6, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc il faut que quand tu pries, tu crois vraiment que Dieu va te donner ce que tu demandes. C'est ça la vraie prière. Mais prier parce qu'il faut parler pour faire une sorte de travail. Non. Il y a un blocage, il y a un mur. Donc c'est une fuite. Cette fuite est naturelle parce que nous avons un corps de chair qui ne supporte pas la transparence de Dieu, la présence de Dieu. Mais nous devons vaincre cela parce que nous voulons le meilleur, nous voulons le salut. Alors nous devons lutter contre nos pensées. Vous savez, souvent quand on commence à prier, qu'est-ce qui arrive? Des pensées de distraction. C'est dû à notre chair qui ne supporte pas Dieu. Nous devons mater cette chair et dire, moi je veux parler à Dieu, clairement. Donc j'arrête ces pensées-là. Nous devons prendre autorité sur les pensées. Dès qu'on commence à prier, il y a des pensées qui viennent. Dès que la prédication commence, il y a des pensées qui viennent. Dès que la prédication commence, il y a des troubles qui viennent. Parfois, certains ont envie d'aller aux toilettes. C'est parce qu'on veut t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Comprends cela, c'est une réalité. La chair ne supporte pas Dieu. Nous devons lutter avec ça. Un chrétien ne peut pas être malheureux dans la présence de Dieu. Il ne peut pas être en colère dans la présence de Dieu. Donc, c'est qu'il y a un problème, il faut régler ce problème. tu ne peux pas communier avec les frères et sœurs et tu es mal à l'aise. Donc soit tu as un problème avec le pasteur, avec celui qui prêche, avec... Mais il faut régler. Il faut régler. Tu ne peux pas être dans une église et tu es mécontent. Mais il faut régler ce qui empêche cette joie-là de venir et que Dieu agisse pleinement. Il faut régler. Il faut dire à Dieu son problème. Il faut faire face. Et la grâce de Dieu se manifestera. Et la puissance de Dieu se manifestera. Dieu veut agir afin qu'on glorifie son nom. Mais il veut qu'on s'approche de lui clairement, pas par la religion. Clairement, il veut qu'on s'approche de lui. Et ce doit se passer par une conversion totale. Dire à Dieu, premièrement, Seigneur, moi je ne veux plus marcher par ma logique. Je ne veux plus marcher selon mon intelligence. J'ai échoué. Je suis fatigué. Je veux te rencontrer pour que tu changes ma vie. Et deuxièmement, si on est chrétien ou qu'on est malheureux, on doit dire à Dieu son problème. On ne doit pas dire, mais c'est une telle personne qui m'empêche d'être heureuse. Non. Si quelqu'un t'empêche d'être heureux, c'est que toi, tu dois changer pour supporter la personne. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. C'est toi qui dois changer. Ton vrai problème, c'est toi. Ton vrai problème, ce n'est pas l'autre. Parce que Dieu supporte bien cette personne, donc toi, tu peux bien supporter la personne. C'est toi qui dois changer. Dis-toi toujours quand de tels moments arrivent, c'est moi qui dois changer. Que dois-je faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Maintenant, nous, on sent bien ce que Dieu attend de nous. Mais on veut occulter ça en disant, mais tel est mon problème. Non, c'est toi qui es ton problème. Dis-le à Dieu clairement. Amen. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Si Dieu était méchant, je comprendrais qu'on fuit. S'il était injuste, je comprendrais qu'on se dise, bon, il n'y aura pas de solution. Mais lui, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je peux tout régler. Mais soyez sincères et soyez réels. Soyez véridiques dans vos prières, dans votre façon de vous approcher de moi. Ayez foi en moi. Ayez foi. Là, je peux agir. Nous allons lire Matthieu 9, ou je crois peut-être Marc 9. Marc 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. » Ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Voilà, cet enfant qui est sourd-muet, épileptique, Jésus-Christ le guérit. Mais Jésus-Christ pose une condition à son père pour le guérir. Il dit, « Il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. » Le père, il dit, « Je crois. » Mais il sent bien qu'il ne croit pas comme il faut. Et il avoue à Jésus, « Je ne crois pas comme il faut. Aide-moi. » Il a dit son problème. Son problème, c'était sa propre foi. Pour trouver la guérison de son fils, il était prêt à dire tout ce qu'il... Il était prêt à dire « Je crois. » Mais il a été honnête. Il a bien senti qu'il avait du mal à croire réellement. Il faut que nous soyons honnêtes. Dieu connaît nos cœurs. Même quand tu dis que tu crois, est-ce que tu crois vraiment? Parce que la foi s'accompagne des actes qui démontrent qu'on croit. Celui qui croit que Dieu est tout puissant financièrement, il va être capable de donner aux autres. C'est ça la vraie foi. Il va être capable de s'engager dans des projets voulus de Dieu, même si lui ne voit pas l'argent, parce qu'il croit. On ne peut pas dire qu'on croit, on veut pour faire n'importe quoi, il faut que le compte bancaire soit rempli. Mais non, où est la foi? Bien-aimé, il faut dire son problème. Ce monsieur avait un problème de foi et il l'a avoué. Et Jésus non seulement lui a restauré la foi, lui a augmenté la foi, Jésus a guéri son enfant. Parfois, pour obtenir des choses, on croit qu'en faisant le chrétien, en jouant au chrétien, Dieu va nous le donner très vite. Mais Dieu connaît notre problème. Il sait bien qu'on n'est pas chrétien à 100%. Commençons par ça. Et Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais je sais que tu peux me donner par ta grâce à cause de Jésus. Donne-moi à cause de Jésus. Amen. Voilà, il ne faut pas vouloir jouer au costaud alors que tu n'es pas costaud devant Dieu. Il faut avouer son problème. Il faut dire ce qu'il y a et le Seigneur va agir. C'est ce que Dieu attend de nous. Il est bon, il a guéri cet enfant. Et il peut guérir n'importe qui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Ne fais pas semblant d'être pas fatigué. Tu es fatigué, dis-le au Seigneur. Dis à Dieu, qu'est-ce qui te fatigue? Et pendant que tu parles à Dieu... Reconnais aussi ce que le Saint-Esprit te dit sur toi-même, ce qu'il en est du vrai problème. Et dis-le encore à Dieu. Quand le Saint-Esprit va te convaincre de ton vrai problème, redis-le à Dieu. N'aie pas honte. Redis à Dieu, ah c'est vrai, je me rends compte qu'en réalité, voilà mon deuxième problème, voilà mon troisième problème. Je pensais que c'était le problème 1, mais il y en a 3. Je te le dis Seigneur, je m'approche du trône de la grâce. Purifie-moi et fais de moi un être nouveau et résous mon problème. Amen. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te remercions de nous aider à nous lâcher et à nous confier en toi, Seigneur. Il est écrit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous voulons aucunement mériter quoi que ce soit, parce que tout vient de ta grâce. Seigneur, nous voulons que ton esprit parle à chacun de nous pour nous dire quel est notre vrai problème. Que nous ne puissions pas fuir, que nous puissions nous livrer clairement afin d'obtenir une totale délivrance. Quel est ce malade qui irait voir un médecin en cachant ses souffrances? Comment peut-il être guéri? Seigneur, nous ne voulons pas être ce genre de malade qui cache ses souffrances parce qu'il a peut-être peur qu'on lui annonce une grave maladie, alors il cache ses souffrances. Mais il va rester encore dans cette maladie et souffrir. Nous préférons être transparent vis-à-vis de toi. Et quoi qu'il nous sera annoncé par le Saint-Esprit, quoi que notre conscience nous reprochera, nous sommes sûrs que tu vas nous pardonner, tu peux nous transformer. Et c'est pourquoi nous voulons nous approcher du trône de la grâce et dire, Seigneur, viens à mon secours. Donne-nous le secours opportun. Et s'il y a des problèmes de conversion, que nous puissions nous lâcher et nous convertir, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, toi qui ne changes pas. Toi qui es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons sortir des pièges que l'ennemi nous a tendus pour nous pousser à te fuir en cachant nos problèmes, à te fuir en nous croyant bons, en trouvant des boucs émissaires, à te fuir alors que nous sommes embêtés. Nous savons qu'un homme sans Dieu ne peut pas être heureux. Il sera toujours embêté. Il y a quelque chose qui va lui manquer. C'est pourquoi il va chercher à compenser par des plaisirs. Il va chercher à compenser par l'argent. Il va chercher à compenser par toutes sortes d'activités. C'est parce qu'il n'est pas heureux. Parce que toi, quand tu nous remplis, nous sommes en paix, Seigneur. Alléluia, Seigneur. L'ennemi nous a tendu un piège, Seigneur, mais nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. De ma voix, je...